Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a une phrase dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'il nous faut méditer avec attention. Miserior super turban, trois mots. J'ai pitié de cette foule. Notre Seigneur Jésus-Christ prêche, beaucoup de gens le suivent, et puis il a pitié de leur corps, comme il a pitié de leur âme. Et il va pour les nourrir, parce qu'il se doute que certains d'entre eux ont fait une longue route pour venir. Il va faire une multiplication des pains. Il va multiplier les pains et les poissons pour les nourrir. Et cette phrase, « Miserior super turbam », notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit tous les jours. À chaque fois que le prêtre consacre le Saint-Sacrifice de la Messe, à chaque fois qu'il change, le pain au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang à l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, il renouvelle de nouveau cette action. Pour cela que les pères de l'Église ont toujours vu dans la multiplication des pains déjà une analogie avec la Sainte Eucharistie. De la même façon que le pain nourrit les corps, la Sainte Eucharistie, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nourrit les hommes. Et précisément parce que notre Seigneur Jésus-Christ a pitié de nous, il va nous donner en quelque sorte tous les moyens surnaturels dont nous avons besoin pour pouvoir le suivre, pour apporter notre croix. Celui qui suit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui porte la croix. Celui qui veut me suivre, disait-il, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce à lui-même et qu'il me suive. On ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ sans croix. Beaucoup de gens veulent parfois, dans le monde moderne, accepter notre Seigneur Jésus-Christ à condition d'avoir une petite vie bien tranquille. Il n'est pas question d'avoir une petite vie bien tranquille et de suivre notre Seigneur Jésus-Christ à la fois. Regardez notre Seigneur, regardez ce qui est arrivé à notre Seigneur, comment il a été crucifié et mort pour nous sur la croix. Regardez tous les apôtres, comment tous, sauf Saint Jean, sont morts martyrs. Eh bien nous, mes bien chers frères, il nous faut faire la même chose. Il faut nous aussi renoncer à nous-mêmes pour porter la croix. Et donc pour porter cette croix, qui est lourde, il faut avoir des moyens surnaturels. Personne ne peut porter sa croix par ses propres moyens. Et donc les moyens surnaturels, c'est d'abord la Sainte Communion, d'où la multiplication des pains aujourd'hui. Par la Sainte Communion, en quelque sorte, notre Seigneur Jésus-Christ va unir sa divinité avec notre humanité. Parce qu'on comprend ce qu'est la Sainte Communion. La Sainte Communion, c'est un peu le renouvellement, en quelque sorte, le renouvellement du mystère de l'Incarnation. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie, dès qu'elle a dit « Fiat, qu'il soit fait selon ma parole », lorsque Notre-Dame a accepté de devenir la mère du bon Dieu, eh bien, immédiatement, c'est uni en quelque sorte, se sont unis dans le sein de la Sainte Vierge Marie, l'humanité de Notre-Dame avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est incarné. Et c'est la même chose chaque fois que nous communions. Quand nous communions en état de grâce, le bon Dieu va unir sa divinité avec notre humanité pour devenir un petit peu comme la très sainte Vierge Marie pendant les temps où la présence réelle demeure en nous. Le bon Dieu ne s'est pas simplement contenté de nous donner la Sainte Eucharistie parce qu'il avait pitié de nous. Le bon Dieu va nous donner aussi, évidemment, les moyens d'avoir la Sainte Eucharistie, à savoir le sacerdoce. Ce n'est pas pour rien que c'est justement cette semaine que nous avons la grande fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est la fête du sacerdoce par excellence. Pensez à tous les prêtres qui vont être ordonnés le 29 juin, pensez aussi à tous les prêtres que vous connaissez qui ont été ordonnés le 29 juin. Moi-même été ordonné prêtre le 29 juin 1979. Eh bien, le bon Dieu, justement, parce qu'il a pitié de nous, il a pitié de cette foule qui vient à lui et qui cherche le vrai, eh bien, il va donner le sacerdoce, cette fois-ci pour la messe et la Sainte Eucharistie. Parce qu'il sait que la Sainte Eucharistie ne peut pas arriver comme ça sans être amenée en quelque sorte sur l'autel par le sacerdoce, par le prêtre. Toute la grandeur du prêtre. La grandeur du prêtre, elle vient de là, justement, elle vient du fait que le prêtre est celui qui a reçu une consécration spéciale du bon Dieu par laquelle il peut transformer le pain et le vin au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut offrir le Saint-Sacrifice de la Messe. connaissez, je vous en ai déjà souvent parlé, je crois, cette thèse de théologie qui dit que la fin du monde arrivera le jour où, il y aura, où le dernier prêtre va mourir. Parce que si le dernier prêtre meurt, il n'y a plus moyen, en quelque sorte, de puiser les grâces qui viennent de la passion et qui sont données à tous les hommes de bonne volonté, qui cherchent Dieu par le Saint-Sacrifice de la Messe. Plus de Messe, plus de Sainte-Eucharistie, plus de Sainte-Eucharistie, le monde ne peut plus tourner. Ce sera la fin du monde. Mais on voit une autre chose. Pour comprendre les textes d'aujourd'hui, il faut évidemment aussi regarder les explications qui sont données par l'Église, que le prêtre lit au bréviaire, parce que j'ai lu mon bréviaire hier soir pour les matines d'aujourd'hui, donc l'office du jour qui explique très bien ces textes. Eh bien, c'est pas pour rien non plus que l'Église a choisi le thème du pardon accordé à David. Il faut bien nous montrer que pour pouvoir accéder à la Sainte Messe, pour pouvoir accéder au sacerdoce, pour pouvoir accéder à la Sainte Eucharistie, il faut avoir le cœur pur. Et l'Église nous donne, dans le livre des rois, l'exemple du roi David, notamment un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ se considérait lui-même comme venant de la famille de David, fils de David. Eh bien, le grand roi David, celui qui avait reçu tellement de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu a permis qu'il tombât très bas. Il est tombé dans l'adultère avec Bathsabée, il est tombé pas simplement dans l'adultère, il est tombé aussi dans le meurtre. Il a fait assassiner l'époux de Bathsabée, justement pour pouvoir l'épouser. Et le bon Dieu, dans sa miséricorde, a voulu que David fasse pénitence et comprenne la grandeur de son crime. Et donc, lui a envoyé un prophète, Nathan. Et Nathan lui a raconté une histoire qu'il faut bien connaître parce qu'elle s'applique à chacun d'entre nous. Nathan expliquait, viens voir le roi David, et il lui dit, voilà, je vais vous expliquer une histoire, une parabole. On parlait beaucoup en parabole à l'époque parce que les gens comprenaient mieux. Et il disait, il y avait un homme très pauvre qui avait une petite brebis. Et il s'en occupait comme si elle était sa fille. Il la nourrissait de ses propres mains, il couchait avec elle. Et c'est tout ce qu'il avait comme richesse, cette petite brebis. Et voilà qu'un homme riche à côté, qui recevait des amis, a voulu avoir une brebis pour pouvoir la cuire et faire un repas somptueux pour ses amis. Au lieu de prendre dans ses troupeaux immenses, il est allé voler la brebis du pauvre pour la prêter et nourrir ses amis. Alors, lorsqu'il a entendu cette histoire, David n'a pas tout de suite compris que Nathan, en fait, faisait allusion à lui et s'est dit, cet homme mérite la mort. Cet homme mérite la mort, il faut qu'il rende 4 fois ce qu'il a pris. Et Nathan a regardé David et lui a dit, cet homme, c'est toi. Le bon Dieu t'avait donné tout. Le bon Dieu t'avait donné un royaume extraordinaire. Le bon Dieu t'avait donné toutes tes richesses, absolument tout. Et tu es allé prendre la femme du prochain, tu es allé tuer son mari. Et il faut maintenant que tu fasses pénitence. Et David va avoir cette phrase extraordinaire, j'ai péché contre le Seigneur. Peccavi Domino. J'ai péché contre le Seigneur. Et tout de suite, David, qui était grand dans les honneurs, mais aussi grand dans l'humilité, David tomba à genoux pour demander pardon de ce qu'il avait fait, et d'un seul coup, ses yeux s'ouvrirent. Et Nathan lui dira, le Seigneur te pardonnera ton péché. Cependant, le fils, l'enfant qu'attend à Bathsabée de toi, celui-là mourra. Et l'enfant effectivement mourut. Et cette histoire est importante pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. D'abord, que le bon Dieu pardonne tous les péchés, à condition qu'on les regrette. Il donne l'exemple de deux crimes, du double crime d'adultère et de meurtre de David. Le bon Dieu a pardonné. Mais il pardonne à condition qu'il y ait une contrition véritable, à condition qu'il y ait un regret véritable et profond de ses fautes. À ce moment-là, le bon Dieu pardonne tout. Et le bon Dieu, évidemment, pardonne aussi si on fait pénitence. Donc la pénitence est nécessaire pour pouvoir se présenter, justement, pour accéder à ces grâces extraordinaires que le bon Dieu nous donne par le prêtre, par la Sainte Messe, par la Sainte Eucharistie. En quelque sorte, la porte qui ouvre le sacrifice de la messe, qui permet d'assister à la Sainte Messe, c'est la porte du sacrement, c'est la porte de la pénitence. D'où l'importance fondamentale du sacrement de pénitence. rappelle qu'avant chaque messe, de 9h à 10h, je suis dans vos confessionnals. Pour le moment, le confessionnal provisoirement est à la chapelle, donc n'hésitez pas à venir vous confesser si vous en avez besoin avant la messe et utiliser ce sacrement de pénitence. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore les exercices de Saint-Ignace ou qui ont besoin de renouveler leur retraite, de prendre une des feuilles jaunes à l'entrée de la chapelle pour envisager de venir faire une retraite ici, parce que les retraites de 5 jours données par la Sainte Vierge Marie à Saint-Ignace de Loyola au XVIe siècle, ces retraites ont une force extraordinaire justement pour augmenter la contrition, préparer notre cœur par une bonne confession générale, afin que nous soyons élevés au niveau, si vous voulez, d'amis de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'amis de notre Seigneur Jésus-Christ, fils adoptif de Dieu, nous pourrons à ce moment-là, nous aussi, utiliser le sacrement de pénitence, le sacrement de l'ordre, le sacrement de la Sainte Eucharistie pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, oh, bien, chers frères, tout ce qu'il faut comprendre, une fois qu'on a compris toutes ces choses, eh bien, on se monte en quelque sorte vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute la différence qui existe, si vous voulez, entre le monde et notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique. Le monde, donc, si vous voulez, rabaisse les gens sous la boue, les oblige à regarder qui s'y bat, toutes les horreurs du monde moderne, et pousse les gens à se complaire dans ces horreurs. L'Église catholique, au contraire, parce que l'Église divine monte les âmes vers le bon Dieu, les oblige à lever le nez, vers les yeux, vers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est de notre Seigneur Jésus-Christ qu'arrivent toutes les grâces. Il y a dans l'Épître de Jean une phrase magnifique dans l'Épître aux Romains qui dit qu'il faut crucifier le vieil homme. Crucifier le vieil homme pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pour cela qu'on a besoin des sacrements. Pourquoi est-ce que nous confessons souvent dans l'Église catholique, pourquoi est-ce que nous nous approchons si souvent que possible de la Sainte Communion? Parce qu'il faut crucifier le vieil homme. C'est quoi ce vieil homme? Le vieil homme, c'est le vieil homme de péché. Le vieil homme, c'est le vieil homme qui suit les concupiscences d'ici-bas, qui suit l'orgueil, qui suit les concupiscences de la chair, qui suit les concupiscences des yeux, celui qui veut tout posséder, qui veut tout ressentir, qui veut être le chef de tout, le maître de tout. Eh bien, il faut crucifier cet homme. Il faut crucifier ces trois concupiscences par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'encore une fois, on a un choix. Celui qui veut me suivre, il faut qu'il se méprise lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il méprise le monde. Et donc, il faut crucifier ces trois concupiscences par les trois vertus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Donc, on a un choix, encore une fois, ou notre Seigneur Jésus-Christ, ou le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix, pauvreté, chasteté, obéissance, et le ciel au bout de la route. Le monde, c'est liberté, égalité, fraternité, les trois concupiscences de la chair, des yeux, de l'orgueil, et l'enfer en bout de route. Alors, mes chers frères, il faut demander au bon Dieu, justement, de comprendre toutes ces belles choses. L'Église nous donne, l'Église catholique, qui est l'unique Église divine, nous donne, justement, les moyens d'accéder à notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça passe, évidemment, par les sacrements. La confession, pour enlever les péchés commis après le baptême, la Sainte Eucharistie pour nourrir notre âme avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et le sacerdoce justement qui permet à notre Seigneur Jésus-Christ en quelque sorte d'être toujours présent ici-bas. Une chapelle, c'est ça. Quand on rentre dans une chapelle catholique, on tombe en adoration. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est dans le tabernacle. Pour cela que les chapelles doivent être toujours aussi belles que possible, parce qu'elles représentent justement, on dit que la chapelle représente le ciel. Les pauvres comprenaient très très bien ça dans le Moyen-Âge, ils n'avaient rien, mais ils avaient leur chapelle, leur église. J'ai vu ça quand j'étais au Mexique, des gens qui vivaient dans une pauvreté absolument invraisemblable. Mais ils avaient des chapelles, ils avaient des églises qui étaient entièrement ornées d'or. Eux, ils n'avaient pratiquement rien pour vivre, mais ils avaient ces chapelles baroques espagnoles extraordinaires de beauté et de richesse extraordinaire, alors qu'eux-mêmes n'avaient presque rien. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'au moins ils ont ça. Et ils venaient dans la chapelle, quand ils étaient dans leur chapelle, ils étaient au paradis. Le modernisme est arrivé, leur a enlevé toutes ces choses-là, on détruit bien sûr toutes ces magnifiques chapelles, du coup ils n'ont plus rien. Ils meurent autant de faim, ils sont toujours aussi dans la misère qu'avant sur le plan matériel, et en plus ils ont perdu ce coin qui était pour eux leur paradis. Alors, mes bien chers frères, il faut que vous conceviez que cette chapelle Saint-Rémy ici, qui n'est pas encore complètement terminée, mais que grâce à Dieu nous essayons d'embellir jour après jour, eh bien il faut considérer que cette chapelle, c'est vraiment le paradis ici-bas. C'est le paradis ici-bas, et donc il faut aimer s'y retrouver, parce que c'est ici que vous retrouverez notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je commence ces retraites de Saint-Ignace, c'est la première chose que je dis aux retraitants. Je dis, venez à la chapelle et passez autant de temps que possible devant le Saint-Sacrement, parce que c'est devant le Saint-Sacrement que vous comprendrez tout ce que vous devez faire. Et à ce moment-là, tout s'éclaire. À ce moment-là, on comprend la grandeur de la messe, on comprend la grandeur de la Sainte Eucharistie, on comprend la nécessité de la confession, on comprend d'un seul coup ce qu'est le prêtre. Le prêtre qui est justement l'homme de la prière, l'homme de la pénitence, l'homme qui est celui en quelque sorte à qui le bon Dieu a confié les clés, la clé qui ouvre la porte du tabernacle et qui ouvre la porte du tabernacle ouvre aussi la porte du ciel. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Elle est aussi la porte du ciel. Ieno Acheli. Dans les litanies de la Sainte Vierge, Ieno Acheli est la porte du ciel, parce qu'elle est celle qui nous donne notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu venir à nous par elle. Il aurait pu venir à nous directement, il a voulu passer par notre Sainte Vierge Marie. Et donc il n'est pas possible pour un catholique, pour quelqu'un qui n'est pas catholique mais qui veut revenir vers le bon Dieu, il n'est pas possible de retrouver notre Seigneur Jésus-Christ sans passer par celle qui nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir notre Sainte Vierge Marie. Donc demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin, afin que nous conservions la foi malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les désolations, malgré les moments difficiles par lesquels nous sommes tous obligés de passer. Notre Sainte Vierge Marie, elle n'a jamais douté. Et une des vertus de notre Sainte Vierge Marie, c'est ça, la fidélité. Elle n'avait jamais, jamais douté, jamais eu l'ombre d'un doute concernant la fonction et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider, nous aussi, à ne pas douter. Lorsque les moments deviennent difficiles, lorsque les tentations augmentent de jour en jour, lorsque les difficultés s'amoncellent sur nos chemins, nous serions tentés évidemment de douter en disant mais est-ce que je vais y arriver, mon Dieu, est-ce que je vais arriver à me maintenir en état de grâce, est-ce que je vais arriver à rester sur le chemin qui mène au ciel? C'est là qu'il faut passer par la très Sainte Vierge Marie, celle qui n'a jamais douté, et elle nous aidera à nous aussi à ne pas douter et à nous garder, à nous maintenir sur le chemin qui mène au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.